Alors, verset 21, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. » S'il y avait moyen d'avoir une loi auquel on obéisse, par laquelle on puisse avoir la vie éternelle, hein, ce serait comme ça. Mais Dieu a donné la loi après avoir fait la promesse à Abraham. Voilà ce que Paul explique dans l'Épître aux Galates. La promesse de la vie, de l'épanouissement de l'être humain dans la vie véritable de Dieu avait été promise à Abraham le croyant. Abraham avait mis sa foi en Dieu. Et puis, la loi a été donnée à Israël. Donc le peuple issu d'Abraham a reçu la loi pour qu'elle soit un pédagogue qui conduise au Christ. Un pédagogue qui fasse comprendre au peuple de Dieu qu'il est pécheur et que sans un salut de la part de Dieu, c'est impossible d'être sauvé. Et le salut qui est venu, c'est Jésus son Fils. La loi nous a montré qu'on n'était pas capable d'être parfait. Parce que s'il n'y avait pas de loi, on se tracasserait pas, on se dirait, mais je n'ai pas péché, je ne suis pas coupable. Et Dieu a enfermé tous les hommes dans la culpabilité du péché. Romains chapitre 1er, tous les hommes, et chapitre 2, les Juifs. Et voilà, nous sommes tous sous la condamnation. Hein. Mais Jésus est venu afin d'ôter notre culpabilité. Il est venu afin d'ôter le péché. Et c'est ainsi que par la foi, par la pure grâce de Dieu, nous pouvons être sauvés. Le salut est obtenu par le moyen de la foi et non par l'observation des lois. Impossible d'être sauvé en observant des lois. Impossible. Que ce soit la loi de Dieu, la loi des hommes, ou les lois qu'on se donne à soi-même, à sa bonne conscience. Ce n'est pas ces lois-là qui vont nous sauver, d'accord ? On ne peut pas être sauvé par aucune loi. Parce qu'il y a des gens qui inventent des lois et qui les imposent aux autres. D'accord ? Il y a aussi ça, hein, la loi du plus fort. Mais on ne sera pas sauvé ni par les lois de Dieu, ni par les lois humaines, les lois gouvernementales, ou les lois qu'on impose aux autres ou qu'on s'impose à soi-même. Toutes ces lois-là ne pourront pas nous sauver. Il y a des gens qui s'abstinent de tas de choses, qui veulent vraiment faire au-delà de ce qu'ils pourraient être capables de faire, croyant qu'ils vont obtenir le salut. Ils sont capables de faire des pèlerinages incroyables. Il faudrait marcher sur les genoux jusqu'au Japon, peut-être pas dans les mers, mais marcher sur les genoux s'il le faut pour monter jusqu'au sommet de la tour Eiffel pour obtenir le salut. Et si c'est comme ça qu'on l'obtient, je vais vous assurer qu'il va y avoir une file incroyable à la tour Eiffel. Des milliers, des millions de personnes seront là pour marcher sur les genoux, pour atteindre le dessus, pour aller au ciel forcément. Mais non, ce n'est pas par les lois, ni de Dieu, ni les lois humaines que nous pouvons être sauvés. Mais c'est par la foi. La loi, elle nous conduit à nous rendre compte que nous sommes pécheurs. Et l'illustration, c'est l'homme qui était tombé dans un trou. L'homme est tombé dans le trou, hein, c'est Genèse chapitre 3, c'est l'arbre de la vie, de la connaissance, pardon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme qui prend le fruit défendu qu'il donne à son mari, et vraiment, c'est un peu comme s'ils étaient tombés dans un trou, d'accord ? Ils sont tombés dans le trou, tout au fond, là. Hein ? Et ils essayent d'en sortir, ils essayent de mettre des échelles qui sont chaque fois trop courtes pour sortir du trou. Et ça, ce sont les raisonnements, les pensées, la religiosité, la religion des gens, pour essayer, les règles, l'observation des règles, les religions, les sacrifices, on fait des sacrifices énormes. On veut sortir de ce trou pour être sauvé. On veut connaître la vraie liberté. On veut connaître le salut, la vie véritable avec Dieu. Mais par nos propres forces, il est impossible. Même l'homme qui semble meilleur, vraiment... ne peut pas. Il y a aucun homme qui soit, aucun homme ou aucune femme qui soit parfaite selon le statut de Dieu. Impossible. Et donc, Dieu nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés par la foi. Voilà. Dans le royaume de Dieu, on est sauvé uniquement par le moyen de la foi. Impossible d'être sauvé par des autres lois, par des lois, quelles qu'elles soient. Deuxièmement, l'Esprit Saint est obtenu par la foi. Si les choses anciennes, comme on disait hier, sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est parce que nous avons reçu par la foi l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne peut être reçu en nous. C'est quoi l'Esprit Saint? C'est qui d'abord? C'est Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous recevons l'Esprit de Dieu par la foi. Et il vient dans notre cœur. Il vient dans notre vie. Nous devenons même le temple du Saint-Esprit. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu met son cachet. Vous savez, au temps des Romains, les empereurs avaient une espèce de bac comme ça, avec un cachet, je n'ai pas ça, mais voilà. Et donc, des documents, voilà, c'était une signature sur les parchemins, etc. Et nous allons lire dans Galates chapitre 3, verset 2, si vous voulez bien. L'Esprit Saint est obtenu par la foi. Ça, c'est important. L'Esprit Saint ne vient pas comme ça. Saint-Esprit, il est obtenu quand nous nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous naissons de nouveau et que l'Esprit vient habiter dans notre cœur. Mais comment est-ce qu'il vient dans notre cœur? Par la foi. Hein. Ce n'est pas une loi qui fait que le Saint-Esprit vient en nous. Galates chapitre 3, verset 2. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Est-ce que c'est par la loi ou en pratiquant la loi? En pratiquant, il y a des choses à pratiquer de manière précise. Vous devez faire 100 prières les mêmes. Vous devez lire 50 chapitres par jour. Alors ça ira. À partir de ce moment-là, vous êtes accepté par le Seigneur. Vous devez lire combien de chapitres pour que Dieu vous apprécie? Vous devez prier combien de fois par jour? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? C'est quoi que je dois faire? C'est quoi qui va faire en sorte que Dieu soit d'accord avec moi? C'est la foi. C'est la foi. Et l'Esprit Saint est obtenu de la même manière, par la foi. Galates 3, 2. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? En écoutant avec foi. Donc faites attention à la manière dont vous écoutez. Si mon cœur est fermé quand j'écoute la prédication, il n'est pas étonnant que je retourne vite chez moi. Et que j'ai rien reçu, et que finalement je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai rien vu, j'ai rien senti, j'ai rien goûté. Mais si mon cœur est ouvert, c'est à ce moment-là que Dieu peut agir. Si mon cœur est fermé, mais à qui est-ce que je dois en vouloir? Je dois en vouloir à qui? À Dieu? Si mon cœur est fermé? Non. Mon cœur, s'il est ouvert, je vais recevoir quelque chose, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle pour faire son œuvre. C'est moi qui dois être ouvert. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi? Vous pratiquez des choses précises et un peu mystérieuses, il y a des trucs à faire, il y a une introduction. Non, il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas mystérieux. C'est la foi qui engendre des miracles de la part de Dieu. Et le miracle le plus extraordinaire, c'est le salut, non? C'est quand je reçois Jésus dans ma vie. C'est un miracle quand je reçois le Saint-Esprit dans mon cœur. C'est un miracle extraordinaire, c'est le plus grand miracle. Je peux être délivré d'une paralysie, c'est fantastique, extraordinaire, si j'étais aveugle et que je vois. Mais si je vois avec un cœur renouvelé, avec une intelligence qui est complètement visitée par Dieu, mais c'est autre chose. Alors, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Parce que vous écoutez avec foi. Et c'est la foi qui sauve, la foi qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui, vous aussi, Éphésiens 1, 13, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu comment ?» avec foi. Que si je l'entends sans foi, ça ne me sert pas à grand-chose. Je peux vous l'assurer. Si vous entendez 1000 prédications sans avoir la foi, ça ne vous changera pas. Vous allez rester les mêmes. Et vous allez dire, Dieu n'existe pas. Mais si vous écoutez avec foi, ça va changer votre vie. Ça va changer votre destinée. Ça va transformer votre mentalité. Votre façon de penser va être différente. Votre façon de voir les choses va être différente. Vous allez expérimenter Dieu dans votre vie. Vous allez expérimenter Dieu dans le présent de votre vie. Et vous n'allez plus faire les choses par vous-même. En tout cas, c'est ce que Dieu espère. C'est ce que j'espère pour vous et c'est ce que Dieu espère pour moi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez cru, vous avez eu la foi. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés, c'est un sceau. Vous savez, quand la police met un sceau sur une porte, il n'est pas question d'ouvrir la porte. Si vous faites ça, vous avez la justice contre vous. Quand la police vient mettre un sceau sur la porte de chez un bandit, par exemple, Marc Dutrouille, ça a été scellé, sa porte. On ne pouvait plus y entrer, à part la police, bien sûr, et les magistrats, quand l'heure est venue d'y entrer, d'y pénétrer, mais il n'est pas question que quelqu'un rentre dans ce bâtiment. Et le Saint-Esprit, quand il vient nous sceller, c'est pas tellement pour que personne n'y rentre, c'est certainement pour que Jésus ait un libre accès, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est une marque de propriété. Une marque de propriété. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que vous avez en vous le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Ne rendez pas triste le Saint-Esprit. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on pourrait l'attrister ? Parce qu'il est une personne. Et une personne peut être attristée. Vous êtes d'accord ? Si vous avez la personne de Dieu en vous par le Saint-Esprit, il peut être triste. Le Saint-Esprit vivant. Et on peut l'attrister par le péché, évidemment, par les fautes volontaires, même quelquefois involontaires. Nous devons nous faire un examen de conscience tous les jours. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous lui appartenez. Vous avez été percés. C'est un peu comme si vous aviez été percés à l'oreille. Vous savez, on perce l'oreille des brebis. Elles appartiennent à leur propriétaire. C'est comme si on a été percé. Les filles ici, elles ont été percées. Mais bon, ce n'est pas la même chose. Mais c'est plutôt la marque du propriétaire. La marque du propriétaire. Le sceau évoque la sécurité. La sécurité, parce que nous appartenons à Dieu. C'est une sécurité de lui appartenir. L'authentification et l'approbation. Nous sommes authentifiés comme des véritables enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit vraiment atteste que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons lui dire « Abba Père, Papa, petit Papa chéri, je t'aime et je sais que tu m'aimes. » Extraordinaire. Il y a une filiation, il y a une intimité entre Dieu et nous. Extraordinaire, on peut s'approprier cela, il faut qu'on s'approprie cela. Ou sinon, nous avons un Dieu lointain qui s'éloigne de nous, parce que nous manquons de foi. Mais regardons la parole, analysons la parole. Nous pouvons lui dire « Abba Père ». Nous lui appartenons, nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes approuvés de la part de Dieu. Dieu nous approuve en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, bien sûr, notre conduite doit être approuvée. Mais la façon dont Dieu fait de nous ses enfants est approuvée de sa part. Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est une marque déposée dans le cœur, comme je l'ai dit, comme une oreille percée, c'est vrai. C'est un gage de notre héritage. Le gage de notre héritage. Les prémices, c'est ce qui vient en premier, c'est le premier versement. Dieu nous donne un acompte. Tu veux le ciel, tu veux la vie éternelle, mais je te donne un acompte. Reçois le Saint-Esprit. C'est un acompte. quand nous serons là dans le ciel, une plénitude extraordinaire. Jésus, sur la terre, était vraiment avec la plénitude de Dieu dans sa vie. Il a reçu la plénitude, la puissance de l'Esprit était dans sa vie. Alors nous pouvons la recevoir aussi, d'accord, sur cette terre. Et nous avons reçu les prémices de son Esprit. Qu'est-ce que ça va être, hein, au ciel? J'ai du mal à m'imaginer si l'Esprit que Dieu nous a donné, c'est les prémices, alors ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. C'est le premier versement, la garantie de l'héritage. Dieu nous donne l'Esprit Saint dans notre vie. C'est la garantie de l'héritage qu'il nous a promis. La garantie nous a été donnée. L'assurance du salut et de la vie éternelle. Une assurance extraordinaire. C'est pas j'espère que je serai sauvé. J'espère bien. Non. La vie éternelle, tu la reçois par la foi. Maintenant, tu dois y demeurer. Maintenant, tu dois persévérer. Maintenant, tu dois tout faire pour aller jusqu'au salut. D'accord? Comme Paul disait, désormais, la couronne de vie m'est réservée. D'accord? Il a continué, il a combattu le bon combat de la foi. Hein, c'est pas le sang et la chair ici. Hein. Je parle de l'esprit, de vivre sous la soumission, dans la soumission à Dieu. Et c'est une guerre contre l'ennemi de notre âme qui veut notre peau, qui veut nous faire perdre cet héritage. Et nous avons à lutter, mais en sachant ce que nous possédons. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils possèdent. Alors ils chassent des démons partout. Et ils ne sont jamais sûrs d'être aimés par Dieu. Ça, c'est une catastrophe. Quand je sais que je suis scellé par le Saint-Esprit, je n'ai pas à avoir peur, ni à douter, avoir peur de Dieu. Parce que Dieu m'aime. Dieu a un amour extraordinaire pour nous. Je n'ai pas à avoir de crainte par rapport à ça. Troisièmement, l'homme et la femme spirituels se laissent diriger par l'Esprit et manifestent le fruit de l'Esprit. Voilà, si vous êtes des hommes et des femmes spirituels, si vous êtes des hommes et des femmes spirituelles, des jeunes gens, des jeunes filles spirituelles, eh bien, laissez-vous diriger par l'Esprit Saint et manifestez le fruit de l'Esprit. Parce que vous le possédez en vous, d'accord? Alors, il n'y a plus qu'à le manifester et à se laisser diriger, évidemment. Et Galates, au chapitre 5, verset 16, parle de ça. Au verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est ça le combat. C'est ça le problème. La chair, il y a la chair et l'esprit. Alors, on sait bien tout ce qui est beau et tout ce qui est bon. Mais il y a la chair aussi qui est encore là. Au ciel, on va être complètement délivré de cela. Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus bien besoin de combattre contre ces choses-là. Mais ici-bas, nous avons un combat à lutter. Et à remporter, c'est déjà une victoire qui est acquise. Jésus a déjà été vainqueur, c'est pour ça que Paul dit, vous êtes plus que vainqueur en celui qui vous a aimé. Plus que vainqueur, puisque Jésus a déjà acquis la victoire, je n'ai pas à remettre en question la victoire qui m'est donnée. La victoire, elle m'est donnée. Est-ce que j'y demeure? Est-ce que je vis dans la victoire? Ça, c'est la question. Est-ce que je recherche de vivre en Christ? Qui est ma victoire. Si je vis en Christ, je suis en lui, je suis dans la victoire. Je suis introduit dans la victoire. Mais bien sûr, si je retire mes pieds de cette victoire et je commence à penser selon mon système de pensée et d'intelligence non renouvelé par l'Esprit Saint, évidemment, je retombe dans des mécanismes anciens, de réflexion ancienne qui m'éloignent de la présence de Dieu. Faisons attention. Ce n'est pas du psychologique ici, je parle du spirituel et je parle du... C'est théologique aussi. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Verset 18. Oui, on va relire verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » La chair nous conduit dans un sens. L'esprit nous conduit dans un autre sens. Et donc, il y a un choix constant à faire. Faire mourir la chair et obéir à l'esprit. Et ça c'est notre combat. Ça, c'est notre combat. C'est le combat de tous les instants. C'est le combat de toute notre vie. C'est pour ça que nous devons prier. Il y a des gens qui disent, non, il n'y a pas besoin de prier. Ça ne me sert à rien de prier, pourquoi faire? Je ne veux pas perdre mon temps. Non, non. Mais Jésus priait tous les jours pour se soumettre à son Père. Il se soumettait à son Père. Et nous, nous n'avons pas d'autre conduite à opérer, sinon nous soumettre à notre Père. Mais c'est difficile de se soumettre, parce que la chair, elle est puissante. La chair veut régner dans nos vies. C'est vraiment comme une espèce de une forteresse, la chair. La chair veut en premier. Et l'Esprit, eh bien, ne s'imposera jamais. Le Saint-Esprit, il faut se soumettre à Dieu pour que l'Esprit nous conduise. Dieu ne prendra jamais le contrôle de nos vies si nous ne lui laissons pas la première place. Le Saint-Esprit ne pourra pas nous diriger si nous ne lui laissons pas toute la place. Verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous ne devons pas mélanger les choses de Dieu et les choses de la chair en disant « Dieu m'aime, c'est bon comme ça ». J'ai quelque chose à faire par rapport aux œuvres de la chair. Je dois retrancher ces choses. Comme le vigneron avec un sécateur, il coupe les branches qui ne conviennent pas. Eh bien, moi aussi, je ne dois pas attendre que Dieu le fasse quand je serai au ciel en retranchant ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Non, non. Moi, je dois m'examiner. Moi, je dois faire un travail sur moi-même. Et je dois analyser dans ma vie quelles sont les œuvres de la chair. Et s'il y a des œuvres de l'esprit, fantastique. Mais s'il y a des œuvres de la chair, je dois redresser la barre. Je dois changer de façon de vivre. Et je ne vais pas le faire non pas avec des lois humaines, mais avec l'esprit du Seigneur. Je vais me soumettre à l'esprit. Verset 22, « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Le vent non dirigé est un vent contraire. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit dirigé, qu'on soit dirigé par le vent de l'Esprit-Saint. » Et Jésus disait à Nicodème, c'est un homme qui était venu de nuit, on en a parlé hier pour ceux qui étaient là, qui était venu parler avec Jésus concernant la vie éternelle. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a dit de naître de nouveau, qu'il fallait naître de nouveau. Et il lui parle de cela en donnant une image. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Le vent de l'esprit est un vent dirigé. Un vent qui n'est pas dirigé, c'est un vent qui est destructeur. Vous avez ça aux Philippines, qui a vu les actualités. C'est terrible. Un vent qui vient là n'importe où, n'importe comment, et qui détruit les gens. On va dire un vent non dirigé, bon, par rapport à la volonté de Dieu, souveraine de Dieu, là, on pourrait expliquer des choses, mais c'est vraiment une catastrophe. Hein? C'est une catastrophe naturelle, on va dire. Hein? Bon, voilà. Catastrophe, et Jésus nous a prévenu hein, que dans les derniers temps, il y aura plein de catastrophes comme ça, des inondations, des tempêtes, des choses terribles qui se produiront. C'est pas pour ça qu'il faut pas venir en aide aux victimes. Nous devons venir en aide aux victimes. Mais il y a des vents dans nos vies qui sont contraires et qui sont peut-être destructeurs. Alors ces vents-là, je ne veux pas les suivre. Mais il y a le vent de l'esprit qui est un vent dirigé, le vent de l'esprit qui nous parle. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Quand Dieu m'a parlé à 23 ans, ce n'était pas un hasard. Dieu m'a rattrapé au tournant et Dieu m'a parlé pour ne plus que je dirige ma vie comme j'avais envie. Parce qu'il savait que c'était une catastrophe. Il m'a parlé. Alors, c'est important. Je crois que c'est important de hisser les voiles et de se mettre dans le vent de Dieu pour qu'il dirige nos vies. Mettez vos voiles. Hissez vos voiles. Et laissez-vous conduire là où Dieu veut. Alors, hissez les voiles, d'accord, mais retirez les amarres. Si vous ne retirez pas les amarres, vous n'irez pas loin. Vous aurez des grandes voiles, mais vous tiendrez à vos raisonnements, vous tiendrez peut-être à ces pensées de l'intelligence non renouvelée, dont j'ai parlé tantôt, et ça va vous empêcher d'être conduit par le vent de l'esprit qui veut vous conduire bien plus loin, mais on ne sait pas toujours où. C'est ça qui fait peur. La peur, de ne pas savoir où on va. Et quand c'est Dieu qui dirige, c'est extraordinaire, non ? C'est extraordinaire. Vous savez, on est en train de fabriquer maintenant des voitures à autoconduite, on va dire comme ça. Autoconduite. Donc, on met l'adresse et on peut se mettre à l'arrière, sur la banquette arrière, et se laisser conduire. Et donc, la voiture sait très bien, parce qu'il n'y a pas simplement des petits radars, etc., pour voir tout. Il y a des caméras, etc. Et bien sûr, il y a un GPS qui sait qu'à tel endroit, il faut rouler à 50, le moteur roule à 50 maximum, et puis qui voit évidemment les obstacles, parce que sinon ça pourrait être une catastrophe. On peut pratiquement aller dormir, faire un petit somme à l'arrière de la voiture. C'est pas extraordinaire, ça ? Plus d'excès de vitesse, parce que voilà, tout est réglé, tout est nickel, à moins que ce soit déréglé. Alors c'est une catastrophe. Je ne sais pas qui paye les accidents dans ce cas-là, qui a la responsabilité. Comme avantage, on n'a même pas plus besoin de permis de conduire, à la limite. Et finalement, c'est la marque qui est en tort, si jamais quelque chose qui se passe. Non, c'est exagéré. Mais enfin, voilà, nous sommes dans cette spirale-là. Alors, laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire. Que ce soit Dieu qui conduise nos vies. Lâchons prise. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu nous conduire là où il veut. Son esprit veut agir dans nos vies. Alors, ce n'est pas une autoconduite ici. Dieu sait où il va nous conduire. Et il nous faut dépendre de lui. Nous avons la fâcheuse tendance d'être indépendant. On veut faire les choses de notre volonté. Il y a le moi qui est très fort dans nos vies. Qui pense que le moi est encore fort, présent ? Moi, je pense que dans nos vies, sincèrement, il faut être humble. Le moi est encore bien souvent là. L'obéissance à la direction de Dieu, l'obéissance à l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Quelquefois, il y a des craintes, il y a des peurs. C'est ça, les amarres. On tient, comment ça va se passer ? Je ne suis pas sûr. Quand Abraham est parti au pays de Canaan, ce n'était pas facile. Puis, à un moment donné, il y a eu une sécheresse, une famine, et il est parti en Égypte. Ce n'était pas la voie de Dieu, ça. Mais il a été plus loin, il a été en Égypte. Vous voyez, même Abraham, le père de la foi, le modèle de la foi, est parti en Égypte, parce qu'il a eu peur, à un moment donné. Les mensonges par rapport à sa femme, etc. Enfin, ça a été compliqué à un certain moment. Et puis le fils de la promesse, il y a Ismaël. Quelquefois, on a dur de marcher correctement dans la pensée de Dieu. C'est pas facile, non ? Pourtant, Sarah, c'est une femme de Dieu aussi. On l'a retrouvée aussi dans Hébreux 11, comme Abraham. Oui, c'est important. Alors, manifestons. Non seulement laissons-nous conduire par l'Esprit, mais aussi laissons le Saint-Esprit mettre ses sentiments dans nos cœurs. Dieu veut que nous puissions avoir les sentiments du Christ, refléter son amour, sa paix, sa joie, sa fidélité. C'est tellement important, sa maîtrise, avoir cette maîtrise de soi. Quatrième point, celui ou celle qui se laisse conduire par l'Esprit cessent d'agir par eux-mêmes ou pour eux-mêmes, mais recherchent les indications de l'Esprit et agissent comme Dieu le désir. C'est fort important. Nous voyons ça dans les versets 24 et 25. Et je pense que c'est au chapitre 5. Voilà, donc chapitre 5, bien sûr. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Laissons à Dieu le soin de diriger notre conduite. C'est important. C'est tellement important. Alors, en conclusion, j'aimerais bien qu'on examine si nous sommes dans la foi. Est-ce que nous sommes dans la foi ? Paul exhortait les chrétiens à examiner s'ils étaient dans la foi. Est-ce que nous marchons par l'esprit ou par la chair ? Est-ce que c'est la chair qui remporte la palme dans la conduite de nos vies ? Quels sont les sentiments de nos vies, dans nos vies ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si on oublie ça, ça ne va pas bien marcher. Si on oublie que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous allons oublier aussi que Dieu nous aime. Dieu, il nous a choisis. Il nous a choisis et il est venu mettre un dépôt, le dépôt de son esprit. Il est venu mettre un sceau d'appartenance et il vit à l'intérieur de nos cœurs. Si nous oublions ça, mais c'est grave, hein? C'est très grave. Si j'oublie ça, c'est grave. Vivons-nous en dépendance ? Est-ce que je vis en dépendance de Dieu ou dans l'indépendance ? Est-ce que je fais à ma tête ? Est-ce que je fais ce qui me plaît ? Ou est-ce que je suis dépendant des indications de l'Esprit-Saint ? Est-ce que je me laisse conduire par le Seigneur ? Vivons-nous le fruit de l'Esprit ou les fruits de la chair ? Quand on a vu Galates 5, 19 à 22, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Des disputes avec les autres, des tensions avec les autres, ou bien j'ai un esprit d'amour avec les autres ? J'essaie de comprendre les autres. Est-ce que je suis en paix avec les autres ? C'est important. Analysons un peu. Qu'est-ce qui nous anime ? Quels sont les impacts de la foi et de l'esprit dans notre vie ? Est-ce que la foi je l'expérimente tous les jours ? Est-ce que je peux dire que je manifeste la foi ? Est-ce que je manifeste les intentions de l'esprit dans ma vie ? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui manifeste ses intentions dans ma vie ? Ou mes sentiments, mes peurs ? Mes tracas, mes fardeaux, tout cela. Qu'est-ce qui se manifeste en moi ? Qu'est-ce qui nous anime ? Ce qui a de l'importance, c'est le fait d'être une nouvelle créature. Ça, c'est la chose la plus importante. De réaliser que nous sommes une nouvelle créature. Et comme disait Paul dans Galates 6, 17, « Je porte les marques du Seigneur Jésus. » Alors, de quoi il parlait là ? Les marques, bien sûr, de persécution. Il a souffert pour le nom du Christ. Hein? Et il a été lapidé. Il portait des marques vraiment de l'opposition au message qu'il portait. D'accord ? Mais il y a aussi, la marque de Jésus, c'est aussi la marque de l'Esprit Saint. La marque de l'Esprit qui vivifie, qui ressuscite les morts. Il était porteur de l'Esprit de résurrection. Oui. C'est ça qu'il apportait au monde, c'est ça qui était plus puissant et plus fort que toutes les contradictions des doctrines étrangères qui s'opposaient à son message. Parce que la chair fait toujours un travail contre l'esprit. Si nous sommes animés de l'esprit, nous aurons la chair contre nous. Ça c'est sûr. Si ce n'est pas la nôtre parce qu'elle est crucifiée, ce sera la chair des autres parce qu'elle n'est pas crucifiée. Et je peux vous assurer, vous aurez beaucoup de problèmes avec la chair des autres. Mais il faut d'abord se débarrasser du pouvoir de notre propre chair. Mais nous serons quand même persécutés par la chair des autres. Ceux qui ne vivent pas par l'esprit vont nous persécuter. Et donc, quelque part, on porte les marques de Jésus, d'accord ? Et la marque la plus extraordinaire, c'est que nous sommes dépositaires de l'Esprit qui a été placé en nous. Extraordinaire, hein ? Souviens-toi que tu portes la marque du Seigneur Jésus, le sceau de son Esprit dans ton cœur. Tu es une merveilleuse créature préparée pour la victoire. Tu es préparé pour la victoire et préparé pour la rencontre avec ton Dieu. Extraordinaire, tu as été préparé pour la victoire. On va prier le Seigneur maintenant.